baroque et classique, dans la France du XVIIe siècle, Olivier Lestis et Philippe Frétinier.
Alors, lors de la dernière émission, vous vous êtes arrêté en évoquant simplement quelque chose d'extrêmement important, un château, Vaux-le-Vicomte, sur lequel vous allez beaucoup revenir aujourd'hui, parce que ce château a des caractéristiques tout à fait singulières, est emblématique de votre sujet, à savoir la question du baroque ou du classique, d'une part, et réunit aussi, de manière assez remarquable, trois domaines au moins, qui sont l'architecture dont on a déjà beaucoup parlé, mais aussi le jardin, qui a beaucoup de liens évidemment avec l'architecture, enfin qui répond à l'architecture, ou l'inverse, ça vous expliquerait ça. Et également quelque chose qui apparaît très très fortement aussi à ce moment-là, qui est la question des arts décoratifs, puisque l'intérieur d'un château est aussi évidemment un objet remarquable, et Vaux-le-Vicomte en particulier. Alors déjà, pour revenons rapidement sur le tournant que représente le château de Vaux-le-Vicomte.
On peut parler d'un double tournant, et effectivement c'est au cœur de la problématique de notre série, baroque ou classique, parce que c'est à la fois la personnalité de Levaux, son parcours, bien avant Vaux-le-Vicomte, hein, parce qu'il commence à exercer aux alentours de 1640, c'est lui qui va être nommé premier architecte du roi à la mort de Jacques le Mercier. Donc effectivement cette œuvre majeure, parce que finalement il reste peu de choses de construite de Levaux, je vais les rappeler pour mémoire. Il y a l'hôtel Lambert dont j'ai pas mal parlé précédemment, qui est une construction qu'on peut toujours voir à Paris à la pointe de l'île de la Cité, à la pointe orientale. Il y a le château de Vaux-le-Vicomte, et puis le Collège de France, le Collège des Quatre Nations, je pense à l'Institut de France et je mélangeais le Collège des Quatre Nations, que d'ailleurs il ne va pas vraiment construire puisque c'est son gendre François d'Orbais qui va le terminer, mais c'est quand même le plan de... Et c'est vraiment un architecte qui brouille les frontières parce que il va se révéler par l'importance de son recours aux ordres d'architecture et la façon dont il va les utiliser. Il va se révéler finalement une forme de novateur en pleine phase avec un courant qui s'exprime d'abord dans la peinture et qui est défendu par les frères Fréard, Chanteloup et Chambray, dont j'ai déjà parlé aussi, qui était proche du surintendant des bâtiments Sublet-Desnoyers, proche de Poussin, d'un courant qu'on appelle l'atticisme, qui apparaît donc surtout d'abord pour des raisons picturales. Hein.
Alors, l'atticisme qu'on peut rapprocher du terme de classique, justement.
Oui, justement, j'y viens. Mm-hmm. Donc là, on est aux alentours de 1640, on est encore sous Louis XIII. Hein, et ce courant veut renouer justement avec... le nom même de ce courant emprunte à la rhétorique, hein, donc ça vient vraiment de la rhétorique, et veut faire la même chose que dans la rhétorique, c'est-à-dire vraiment le retour au classique. Oui. Hein, par opposition d'ailleurs, je le rappelle, à l'asianisme, qui serait la version plus déliée, plus ornementée, plus chantournée, si on parle de langue.
Celle qu'on associe plus facilement au baroque, générale. Quoi.
Donc ce courant est importé et porté par les frères Fréard. Ce courant lui-même, d'ailleurs, vient d'Italie, d'une certaine façon, puisque les frères Fréard vont beaucoup aller en Italie. C'est notamment eux qui vont faire revenir Poussin à Paris pour décorer notamment la galerie d'Apollon au Louvre, hein, que Poussin ne finira pas parce qu'il veut rentrer en Italie en disant qu'il ne reviendra plus jamais en France, c'est ce qu'il va d'ailleurs faire. En Italie, alors c'est lié à beaucoup de choses, et notamment à la contre-réforme, parce que À la Renaissance en Italie, on est vraiment, on a déjà parlé quand on a commencé à parler d'architecture, justement dans un retour au classique et notamment à Vitruve, qui est vraiment le traité fondateur, le seul traité qui nous vient de l'Antiquité d'ailleurs. Ça ne veut pas dire que ce fut le seul, mais c'est le seul qui nous soit parvenu. Et au fil du XVIe siècle en Italie, on va glisser vers ce qu'on appelle le maniérisme, c'est-à-dire finalement un détachement du réel pour aller vers des formes plus déliées, justement, moins...
Sublimées aussi, parfois.
Sublimées, voilà, c'est le mot me convient. Et ça va évidemment beaucoup... Cette exaltation des corps qu'on peut voir dans la Sixtine avec Michel-Ange va évidemment heurter de plein fouet les conceptions issues du Concile de Trente et de la Contre-Réforme. Et donc, va y avoir une réaction en Italie à la fin du XVIe, au début du XVIIe, pour un vrai retour au classique. Donc, ça démarre en Italie et ça arrive en France. Et les frères Fréard vont être parmi ceux qui vont, avec Poussin, porter retour au classique. Ça montre bien d'ailleurs que les questions baroques et classiques sont vraiment des fausses problématiques, parce que finalement, Levaux va vraiment s'inscrire dans ça, il va prendre le langage des ordres, ce que Mansart n'a pas fait. Les premières constructions de Mansart, il n'y a pas de recours aux ordres dans les façades de Mansart. C'est celui qui va vraiment développer ça de façon systématique dans son travail et de façon raisonnée, c'est Levaux. Alors c'est intéressant de voir que ni l'un ni l'autre ne sont allés à Rome. Et ce qu'on peut noter avant que j'en vienne à Vaux-le-Vicomte, parce que Vaux-le-Vicomte est vraiment le fruit de ça, c'est que Levaux va utiliser d'abord ce qu'on appelle l'ordre colossal. Je crois que j'en ai déjà parlé aussi, mais je vais rappeler ce que c'est.
Oui, ça vaut toujours le coup de rappeler.
Voilà, c'est-à-dire que donc un ordre, hein, c'est l'unité modulaire de l'architecture antique, donc ça se compose d'une colonne avec une base, un socle, et puis en haut un chapiteau. Donc pour mémoire, les trois grands ordres de l'Antiquité, c'est dorique, ionique et corinthien, auxquels s'ajouteront par la suite composite et toscan. Et donc les temples grecs, romains utilisent dans leur colonnade cette notion d'ordre. Et à la Renaissance, on va revenir grâce à de nombreux traités, notamment à ceux de Palladio. J'en parle parce qu'il y a un lien avec Levaux. On va donc recourir à ça. Et en fait, Mansart, pas tant que ça. Et c'est donc les deux archers qui sont pas allés en Italie, l'un, puisque le Mercier, lui, est allé en Italie, l'un n'utilisant quasiment pas les ordres au départ dans ses façades, il va finir par les utiliser à Maison, au château de Blois, à l'aile Gaston d'Orléans, dont on a déjà parlé aussi. Mais il y a des façades de Mansart sans ordre, et par contre, les façades de Levaux utilisent toutes les ordres. Et Levaux va choisir l'ordre ionique de préférence. Et l'ordre colossal, c'est donc l'utilisation sous forme de colonne ou de pilastre de ce système qui comporte un système décoratif et de proportions et qui s'étale sur deux étages. C'est-à-dire que l'ordre embrasse deux étages. Alors que, par exemple, dans l'architecture grecque, l'ordre, il y a des ordres des fois superposés, comme par exemple à l'intérieur des naos, notamment au Parthénon, mais l'ordre, ça correspond vraiment à un étage dans l'Antiquité. Et là, Levaux va utiliser l'ordre colossal que Bramante va initier, notamment à Saint-Pierre de Rome. Ça aussi, je crois que c'est un petit rappel, il me semble en avoir parlé, et que Michel-Ange va reprendre sur la place du Capitole, au Palais des Sénateurs, et celui qui va importer ça en France, c'est Levaux. Donc en fait, Levaux qu'on associe au baroque, notamment à cause de Vaux-le-Vicomte, c'est finalement celui qui se réclame le plus des classiques, c'est celui qui va étudier Palladio, une bibliothèque aussi importante que celle de Le Mercier, mais par les inventaires, on connaît quand même la bibliothèque de Levaux et il a une bibliothèque assez nourrie en architecture. Et celui qu'on fait passer pour un parangon du classicisme, à savoir François Mansart, n'est pas celui qui d'emblée va utiliser les ordres. Donc il y a, vous voyez, déjà le questionnement, il y a un renversement de la perspective, parce qu'on dit que Mansart, le classicisme, le veau, le baroque, et en fait, bah, non, c'est pas si simple que ça.
Alors on va revenir là-dessus, mais après une pause musicale, vous nous proposez quel...
Alors je propose le scherzo du sexto à cordes numéro 1 de Johannes Brahms.
Alors donc, juste après cet intermède musical, revenons sur le château de Vaux-le-Vicomte et la manière dont ce château constitue un changement, un moment historique particulièrement important dans les arts.
Alors, quand Fouquet fait appel à Le Vau, il faut corriger quelque chose tout de suite, ne pas faire d'erreur. Vaux-le-Vicomte va conférer... un prestige et une notoriété extraordinaire à Le Vau, mais il est déjà connu à ce moment-là.
Il est déjà architecte du roi.
Il est premier architecte du roi. Il a été appelé par le roi pour continuer la cour carrée au Louvre. Il a été appelé par le roi pour travailler à Fontainebleau. Et puis, il a fait un projet à l'emploi pour fermer la cour carrée du Louvre à l'emplacement de ce qu'on appelle aujourd'hui la colonnade du Louvre, qu'on attribue indûment à Perrault. C'est plus compliqué que ça, mais là, on ne va pas parler de ça maintenant. Mais enfin, en tout cas, il a fait un projet qui a... D'ailleurs, le projet qu'il avait fait pour fermer le Louvre, là aussi, classique baroque. Alors, c'est une façade où il utilisait l'ordre colossal. On a son dessin, on a plein de dessins sur les projets de fermeture de la cour du Louvre. Et il prévoyait déjà un avant-corps avec un ovale. Je vais y revenir parce qu'à Vaux-le-Vicomte, on va en parler de ça. Donc, quelque chose qui emprunte au baroque romain. Donc, Le Vau, c'est quelqu'un qui emprunte vraiment un peu tout le répertoire romain, c'est-à-dire vraiment ce que je disais dans la première partie de notre émission, c'est-à-dire le vocabulaire classique, les ordres. Il se réfère beaucoup à Palladio, qui a été traduit à la fois par Pierre Lemuet, un grand architecte, l'architecte du château de Tanlay, et celui qui a, pour toute fin pratique, terminé l'église du Val-de-Grâce, puisque les deux prédécesseurs, Mansart a été rejeté du chantier, le Mercier est mort, donc c'est Lemuet qui termine. Et puis il y a la traduction de Fréard de Chambray. C'est celle-là surtout qu'on va retrouver dans la bibliothèque de Le Vau. Et Le Vau va beaucoup s'intéresser à Palladio, il va s'intéresser aux hôtels de Palladio à Vicence, et c'est ça qui va lui inspirer son utilisation des ordres. Et chez Palladio, et son successeur qui va d'ailleurs terminer certaines des œuvres de Palladio, comme la Villa Rotonda Scamozzi, ou le Théâtre Olympique de Vicence, c'est vraiment le retour à l'utilisation classique des ordres de l'Antiquité. Hein. Et c'est ça qu'on va appeler en architecture l'atticisme. Et donc, c'est vraiment absolument fondateur chez Le Vau, et c'est ce qui le différencie des autres architectes.
Alors, c'est fondateur chez Le Vau, et ça s'exprime en particulier dans le château de Vau-le-Vicomte.
Ça s'exprime dans toutes ses constructions. Et même dans celles qui ont disparu, mais qu'on connaît par les projets, par les dessins. Ça se voit à l'hôtel Lambert où il utilise, notamment dans la fameuse galerie dont j'ai déjà parlé, j'y reviendrai avec la décoration, sur la façade de l'aile où il y a la galerie, il y a l'ordre colossal. Il a une utilisation dans la cour de l'hôtel Lambert qui est une véritable mise en scène progressive de l'utilisation des ordres. Il commence par le dorique avec le porche, et puis on arrive à l'entrée proprement dite de l'hôtel où il y a d'abord du dorique et après la superposition de l'ordre ionique. Et si les architectes avant lui vont finir par citer les ordres, il n'y a pas cette réflexion sur l'utilisation de l'ordre poussée au point de Vau. Ça, c'est vraiment le tournant. Et donc, quand il est réclamé par Fouquet pour Vau-le-Vicomte, c'est déjà un architecte reconnu, d'autant plus qu'il arrête de travailler au Louvre et à Fontainebleau, mais pas parce qu'il a la défaveur de Louis XIV, bien au contraire, c'est que Louis XIV va l'employer pour Versailles. Le premier dessinateur des façades de Versailles, c'est Louis Le Vau. Alors, évidemment, la façade sur jardin, on la voit plus comme Le Vau l'avait dessinée, puisque Le Vau avait fait un bâtiment en U, enfin de côté jardin, donc deux ailes qui sont toujours là, à chaque extrémité, et puis une terrasse, puisque le rez-de-chaussée court tout le long de la façade, dans le projet de Le Vau déjà, mais il y a une terrasse entre les deux ailes, avec une façade au fond, qui reprend le motif des façades des ailes, et cette terrasse, par sous nos climats, évidemment très mal commode, elle est glacée l'hiver, et donc on va avoir l'idée de la couvrir, et c'est là qu'on va faire la galerie des glaces. Et donc, ça, c'est pas Le Vau qui le fera, puisque c'est Ardoin Mansart qui va le faire. Il va ravancer la façade du fond en la recomposant un peu. Il va recomposer d'ailleurs la façade, puisque les fenêtres de Le Vau sont des fenêtres rectangulaires, et Ardoin Mansart va en faire des fenêtres à imposte semi-circulaires. Mais en gros, Ardoin Mansart donc va prendre la façade de Le Vau du fond de la terrasse et la ramener sur le devant. Mais l'architecte initiateur du projet de Versailles, c'est bel et bien Le Vau. Alors l'autre chose intéressante, c'est que c'est vraiment celui, d'ailleurs c'est un peu le château de Vau-le-Vicomte qui va fixer ça, donc j'en viens à Vau-le-Vicomte, c'est vraiment l'absolutisme de la pierre, c'est-à-dire que jusqu'à Le Vau, on est sur la lancée de l'architecture sous Louis XIII et même avant, Henri IV. D'ailleurs, une architecture de briques et de pierres. Hein. Oui. On pense par exemple à la place des Vosges ou à la place Dauphine. Il y a les chaînages du bâtiment qui sont en pierre, les encadrements des fenêtres en pierre, ce qui est structurant. Et puis le mur est rempli de briques ou de fausses briques parfois, de matériaux plus quelconques avec un enduit qui imite la brique. Mais cette architecture brique et pierre va persister. D'ailleurs, même Mansart va l'utiliser. On la voit au château de Balleroy. On la voit dans un certain nombre de constructions de Mansart. Et le tournant, c'est finalement Vau-le-Vicomte, où là, mais déjà donc aussi à Versailles, le projet au départ était aussi brique et pierre. Et Louis XIV va réclamer de la construction en pierre pour que ça soit plus noble. Et Fouquet, pareil, parce que on sait que il y a probablement eu deux projets pour le château de Vau-le-Vicomte, tous deux de Le Vau d'ailleurs, mais on a les contrats en passé entre Le Vau et Fouquet, Et probablement qu'il est possible que dans la première version, le château de Vaux-le-Vicomte ait été une architecture de briques et de pierres. Et puis finalement, le parti choisi, sur lequel ils se mettent d'accord, c'est une architecture toute en pierre.
Est-ce que ce n'est pas là aussi une façon de revenir au classique le plus classique, la pierre,
puisque... Bien sûr, si. Là, on est vraiment complètement dans la référence à l'antique où les parements sont toujours en pierre. Ça, c'est vraiment formalisé par Levaux, même si le château de Maison ou le Gaston d'Orléans à Blois sont aussi une architecture de pierre. On a abandonné la brique et la pierre. Mais on est encore à une époque où on y recourt. Que là, à partir de Levaux, c'est terminé. Et alors, la deuxième nouveauté, et une troisième que je vais mentionner après, la deuxième nouveauté, c'est l'utilisation de l'ovale par Levaux, qu'on trouve magnifiquement dans le fameux grand salon du château de Vaux-le-Vicomte, la façade qui donne sur le jardin. Et ça, c'est vraiment l'emprunt au baroque romain, où on n'a plus une coupole à un seul centre, mais par définition, une coupole ovale, c'est une coupole à plusieurs centres. Et vous vous souvenez de ce que j'avais dit au départ avec la révolution scientifique, le décentrement.
Bien sûr.
Donc là aussi, vous voyez, il y a une utilisation très classicisante, atticiste des ordres par Levaux. Donc il est classique. Et puis finalement, il y a l'utilisation du dôme ovale qu'on va retrouver. On s'en rend moins compte parce que l'ovale est plus resserré, mais qu'on va retrouver à l'Institut, au Collège des Quatre Nations. Et à l'intérieur, le salon, il est sur deux étages, c'est-à-dire qu'on part du sol jusqu'à la voûte de la coupole. Et Levaux va introduire une troisième révolution, enfin qu'il n'est pas tout à fait le seul à introduire, mais il va vraiment la formaliser aussi, notamment à Vaux-le-Vicomte. C'est ce qu'on appelle le château à double corps. C'est-à-dire qu'au départ, il y a le corps central, il y a les deux ailes, et dans les ailes, de part et d'autre du corps central, les salons sont traversants. C'est-à-dire qu'ils donnent les fenêtres, ils font toute la largeur du bâtiment, les fenêtres donnent sur la cour et sur le jardin. Mmh. Alors qu'à Vaux-le-Vicomte, il y a vraiment un côté jardin, des salons côté jardin et des salons côté cour. La dernière chose qui est propre aussi à Levaux, c'est ce qu'on appelle la chambre à l'italienne. Alors c'est une chambre avec un alcôve et dont le plafond est surhaussé par rapport au reste de l'étage dans lequel se trouve la chambre. Et on va même des fois aller jusqu'à des décors plafonnants et carrément des voûtes et des coupoles au-dessus de la chambre.
Mmh, on est presque dans le domaine des arts décoratifs. Là.
Ah ben on y est, oui, parce que c'est justement l'introduction de cette chambre à l'italienne qui va appeler un registre décoratif élaboré, qui va jouer un rôle, bien sûr, dans l'évolution aussi des arts décoratifs.
Alors, nous en parlerons dans la prochaine émission. On va se quitter en musique à nouveau et nous reparlerons notamment des arts décoratifs la prochaine fois.
Alors on va se quitter en écoutant l'Allegro en si mineur opus 8 de Robert Schumann.